Racontant un jour qu'il avait beaucoup connu Ponce Pilate.
Dans les jours qui suivirent, je fus pris par Salvador. Je passai peu de temps à l'hôtel. En feuilletant l'index du livre sur les Rose-Croix, je trouvai une référence au comte de Saint-Germain. « Voyez-vous ça, me dis-je, tout se tient. » De lui, Voltaire écrivait « C'est un homme qui ne meurt jamais et qui sait tout. » Mais Frédéric de Prusse lui répondait que c'est un conte pour rire. Horace Walpole en parlait comme d'un Italien ou Espagnol ou Polonais qui avait fait une grande fortune au Mexique et qui ensuite s'était réfugié à Constantinople avec les bijoux de sa femme. Les choses les plus sûres à son sujet, on les apprend dans les mémoires de Madame de Haussay, dame de chambre de la Pompadour, la belle référence, disait Amparo intolérante. Circulant sous différents noms, il s'était fait passer pour Surmont à Bruxelles, Weldon à Leipzig, Marquis d'Emar, de Bedmar ou de Belmar, comte Soltikoff. Arrêté à Londres en 1745, où il brillait comme musicien en jouant du violon et du clavecin dans les salons, 3 ans après à Paris, il offre ses services à Louis XV comme expert en teinture, en échange d'une résidence dans le château de Chambord. Le roi l'emploie pour des missions diplomatiques en Hollande, où il s'attire quelques ennuis et s'enfuit de nouveau à Londres. En 1762, nous le trouvons en Russie, puis de nouveau en Belgique. Là, Casanova le rencontre, qui relate comment il avait changé une monnaie en or. En 1776, il est à la cour de Frédéric II, à qui il présente différents projets chimiques. 8 ans après, il meurt dans le Schleswig, chez le landgrave de Hesse, où il mettait au point une fabrique de couleurs. Rien d'exceptionnel, la carrière typique de l'aventurier du XVIIIe siècle, avec moins d'amour que Casanova et des escroqueries moins théâtrales que celles de Cagliostro. Au fond, à part quelques incidents, il jouit d'un certain crédit auprès des puissants, à qui il promet les merveilles de l'alchimie, mais avec un profit industriel à la clé. Sauf que, autour de lui, et bien sûr orchestré par lui, prend forme la rumeur de son immortalité. On l'entend dans les salons citer avec désinvolture des événements lointains comme s'il en avait été le témoin oculaire, et il cultive sa légende avec grâce, presque en sourdine. Mon livre citait aussi un passage de Gog de Giovanni Papini, où est décrite une rencontre nocturne sur le pont d'un paquebot avec le comte de Saint-Germain. Oppressé par son passé millénaire, par les souvenirs qui se bousculent dans son esprit avec des accents de désespoir qui rappellent Funès, El Memorioso de Borges, à part que le texte de Papini est de 1930. « N'allez pas imaginer que notre sort soit digne d'envie, dit le comte à Gog. Au bout de 2 siècles, un spleen incurable s'empare des malheureux immortels. Le monde est monotone. Les hommes n'apprennent rien et retombent à chaque génération dans les mêmes erreurs, les mêmes horreurs. Les événements ne se répètent pas, mais ils se ressemblent. Fini les nouveautés, les surprises, les révélations. Je peux vous l'avouer à vous maintenant que seule la mer rouge nous écoute. Mon immortalité m'ennuie. La terre n'a plus de secret pour moi et je n'ai plus d'espoir en mes semblables. » Curieux personnage, commentai-je. Il est clair que notre aglier joue à l'incarné. Gentilhomme mûr, un peu faisandé, avec du fric à claquer, du temps libre pour voyager, et une propension au surnaturel. Un réactionnaire cohérent qui a le courage d'être décadent, au fond je le préfère au bourgeois démocrate, dit Amparo. Woman power, woman power. Et puis tu tombes en extase pour un baise-main. Vous nous avez éduqués comme ça, des siècles durant. Laissez-nous nous libérer peu à peu, j'ai pas dit que je voudrais l'épouser. Encore heureux. La semaine suivante, ce fut Aglier qui me téléphona. Ce soir-là, nous serions admis dans un terreiro de camp d'omblée. Nous ne serions pas admis au rite, parce que la Yalorixa se méfiait des touristes, mais c'est elle-même qui nous recevrait avant le début et nous montrerait le cadre. Il vint nous prendre en voiture et roula à travers les favelas au-delà de la colline. L'édifice devant lequel nous nous arrêtâmes avait un aspect modeste, genre bâtisse industrielle, mais sur le seuil, un vieux nègre nous accueillit en nous purifiant avec des fumigations. Plus loin, dans un jardinet dépouillé, nous trouvâmes une sorte de corbeille immense faite de grandes feuilles de palmier sur lesquelles apparaissaient quelques gourmandises tribales, les comidas de Santo. À l'intérieur, nous vîmes une grande salle aux murs recouverts de tableaux, surtout des ex-voto, des masques africains. Aglié nous expliqua la disposition du décor. Au fond, les bancs pour les non-initiés. Auprès, l'estrade pour les instruments et les chaises pour les ogyas. Ce sont des personnes de bonne condition, pas nécessairement croyantes, mais respectueuses du culte. Ici, à Baya, le grand Yorgé Amado est ogya dans un terreiro. Il a été élu par Yansia, reine de la guerre et des vents. Mais d'où viennent ces divinités, demandai-je? C'est une histoire compliquée. Avant tout, il y a une branche soudanaise qui s'impose dans le nord depuis le début de l'esclavagisme, et de cette souche provient le candomblé des Orixas, c'est-à-dire des divinités africaines. Dans les États du Sud, on a l'influence des groupes bantous, et à partir de là commencent les commixions en chaîne. Tandis que les cultes du Nord restent fidèles aux religions africaines originelles, dans le sud, la Macumba primitive évolue vers l'Ubanda, qui est influencée par le catholicisme, le kardécisme et l'occultisme européen. Par conséquent, ce soir, les Templiers n'ont rien à y voir. Les Templiers étaient une métaphore. En tout cas, ils n'ont rien à y voir. Mais le syncrétisme a une mécanique fort subtile. Avez-vous remarqué de l'autre côté de la porte, près des comidas de Santo, une statuette en fer, une sorte de petit diable avec sa fourche et quelques offrandes votives à ses pieds? C'est l'Exu, très puissant dans l'Umbanda, mais pas dans le candomblé. Et pourtant le candomblé aussi, le Nord, le considère comme un esprit messager, une manière de mercure dégénéré. Dans l'Umbanda, on est possédé par l'Exu, pas ici. Cependant, on le traite avec bienveillance, on ne sait jamais. Vous voyez là-bas, sur le mur? Il me montra la statue polychrome d'un indio nu et celle d'un vieil esclave nègre habillé de blanc, assis à fumer la pipe. Ce sont un caboclo et un pretovello, esprits de trépassé qui, dans les rites Ubanda, comptent énormément. Que font-ils ici? On leur rend hommage. On ne les utilise pas parce que le candomblé n'établit de rapport qu'avec les Orixas africains, mais on ne les renie pas pour autant. Mais que reste-t-il en commun de toutes ces églises? Disons que tous les cultes afro-brésiliens sont de toute façon caractérisés par le fait que, pendant le rite, les initiés sont possédés, comme en transe, par un être supérieur. Dans le candomblé, ce sont les Orixas. Dans l'Umbanda, ce sont des esprits de trépassés. J'avais oublié mon pays et ma race, dit Amparo. Mon Dieu, un peu d'Europe et un peu de matérialisme historique m'avaient fait tout oublier, et pourtant, ces histoires, je les écoutais chez ma grand-mère. Un peu de matérialisme historique, sourit Aglié. Il me semble en avoir entendu parler. Un culte apocalyptique pratiqué chez le type de Trier, n'est-ce pas? Je serrai le bras d'Amparo. No pasaran, mon amour. « Bon Dieu !» murmura-t-elle. Aglié avait suivi sans intervenir notre bref dialogue à mi-voix. « Les puissances du syncrétisme sont infinies, ma chère. Si vous voulez, je peux offrir la version politique de toute cette histoire. Les lois du XIXe siècle restituent la liberté aux esclaves, mais dans la tentative d'abolir les stigmates de l'esclavage, on brûle toutes les archives du marché esclavagiste. Les esclaves deviennent formellement libres, mais sans passé. Et alors, il cherche à reconstruire une identité collective à défaut d'identité familiale. Ils reviennent aux racines. C'est leur façon de s'opposer, comme vous dites, les jeunes, aux forces dominantes. Mais vous venez de me dire que ces sectes européennes s'en mêlent, dit Amparo. Ma chère, la pureté est un luxe, et les esclaves prennent ce qu'il y a. Mais ils se vengent. Aujourd'hui, ils ont capturé plus de blancs que vous ne le pensez. Les cultes africains originels avaient la faiblesse de toutes les religions. Ils étaient locaux, ethniques, myopes, en contact avec les mythes des conquérants. Ils ont reproduit un ancien miracle. Ils ont redonné vie au culte mystérique du IIe et du IIIe siècle de notre ère, dans le bassin méditerranéen entre Rome, qui se délitait petit à petit, et les ferments qui venaient de la Perse, de l'Égypte, de la Palestine préjudaïque. Dans les siècles du Bas-Empire, l'Afrique reçoit les influences de toute la religiosité méditerranéenne et s'en fait l'écrin, le condensateur. L'Europe se voit corrompue par le christianisme de la raison d'État, L'Afrique conserve des trésors de savoir, comme déjà elle les avait conservés et répandus au temps des Égyptiens, les offrant aux Grecs, qui en ont fait du gâchis.